Bel après-midi, Reine.
Bel après-midi, Stevenson Wallow. Bonjour à tous. Les titres de ce journal. C'était un ouf de soulagement pour la population de Obo dans le Mbomou. Pour la première fois depuis 3 ans, 25 véhicules partis de Bangui sont arrivés jeudi dans la ville. 25 jeunes des 5e et 6e arrondissements de Bangui, outillés pour pacifier leur localité. Ils ont reçu ce vendredi des certificats de fin de formation sur la prévention et la gestion des conflits. Une initiative de l'ONG Finchurch Aid. Au sommaire également, réaction de la Direction générale des douanes au mécontentement des opérateurs économiques. Ces derniers ont dénoncé mercredi un contrôle improvisé de la douane. Championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun, les Fèves de Bazoubongui se préparent pour la qualification à ce grand rendez-vous. Nous sommes deux pour la présentation de ce journal. Igor Djeskensenapaye, bonjour.
Bonjour Irène, bonjour à tous.
Ouf de soulagement pour la population de Obo dans le Mbomou.
Pour la première fois depuis 3 ans, un convoi humanitaire composé de plus de 25 véhicules est entré ce jeudi dans la localité.
Une satisfaction pour la population, bien qu'il s'agisse d'un ravitaillement de la MINUSCA. Reportage de notre correspondant Moïse Bakwa.
C'est une liesse populaire dans la ville de Obo avec l'arrivée de ces véhicules qui ont quitté Bangui le 25 juin dernier. Après un mois de route, plusieurs personnes sont accourues à l'entrée de la ville pour les accueillir avec des cris de joie. Mamat Ousmane, habitant de Obo, pense que c'est un signal fort pour l'ouverture du corridor Bangui-Obo et du retour de la paix dans le pays. Le chef de mission de ce convoi déplore pour sa part la forte dégradation de l'axe Bambari-Obo.
Le voyage s'est passé bien avec l'appui de la MINUSCA, mais il n'y a pas de route, En tout cas, Il n'y a pas de route, surtout à quittant Bambari jusqu'ici à Obo, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bac, il n'y a rien.
Il profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel au gouvernement de songer à la réhabilitation de ce tronçon.
Que le gouvernement puisse faire un effort, sinon dans l'ensemble, il n'y a pas de route.
Certains de ces convois sont venus ravitailler la base de la MINUSCA de Obo, d'autres par contre ont transporté des produits des activités génératrices de revenus pour les réfugiés sud-soudanais basés dans la ville. Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekiluka.
Igor, 25 jeunes des 5e et 6e arrondissements de Bangui, actuellement outillés pour pacifier leur localité.
Ils ont reçu ce vendredi des certificats de fin de formation sur la prévention et la gestion des conflits, des rumeurs et l'initiation à la citoyenneté.
Une formation de 5 jours organisée par l'ONG Finchurch Aid à l'endroit des jeunes du lycée La Renaissance et leur père de Malimaka. Le point avec Faustin Modesti Zegagba.
Les 25 jeunes sont tous des leaders des organisations à Malimaka et au lycée La Renaissance. Ils ont désormais mandat de favoriser la cohésion sociale dans leurs milieux respectifs. Ils ont appris des techniques d'approche et les alternatives d'apaiser les gens en cas de dépassement. Cyrus Nguété, élève au lycée La Renaissance, regrette, lui, les actes d'incitation à la haine en milieu jeune.
Il y en a des grands qui nous dépassent en âge. Ils sont toujours derrière, là-bas. Si, par exemple, je suis délégué de la salle, mais mon âge est inférieur, le prof me dit de de l'ordre dans la salle. Parfois, il me dit de relever les noms de ceux qui bavardent. Tout à coup, je relève leurs noms et après, ils me menacent. Parfois, ça m'amène également à ne pas venir au cours vu ces actes-là.
Les rumeurs, la vengeance et les actes haineux, encore présents dans les 3e, 5e et 6e arrondissements de Bangui, entravent le vivre ensemble dans ces arrondissements. Nadine Kaimba, présidente de l'association Arc-en-Ciel pour la paix, propose des actions pour y remédier.
Pour enrayer la peur, c'est d'aller vérifier à la source. Est-ce que réellement ce qu'on entend dire là, est-ce que c'est vrai? Nous, en tant qu'association, on vérifie que c'est pas vrai. Comme ça, on vient, on rassemble un certain nombre de personnes, on les informe. Après la formation, là, je vois que c'est un peu facile. D'abord, aller faire de sensibilisation auprès de nos frères qui sont au kilomètre 5 là-bas.
L'ONG Finchurch Aid, dans son projet pour...
Venons-en à cet appel de la Direction générale des douanes aux opérateurs économiques à déclarer leurs marchandises en respectant les principes établis.
Réaction pour répondre au mécontentement mercredi dernier à Bangui des opérateurs économiques qui dénonçaient un contrôle improvisé de la douane.
Selon le directeur général adjoint des douanes, l'enquête des services douaniers consistait à vérifier la régularité du paiement des taxes. Dieudonné Koyangbo, directeur général adjoint de douane chargé des services centraux, avec vous Igor.
Si les enquêtes douanières, puisque le responsable, il vient d'être nommé à ce poste, il veut montrer qu'il connaît son travail, il nous a proposé de le laisser procéder à un certain nombre de contrôles ponctuels. Donc récemment, il a pris 2 véhicules qui ont été traités a priori par les services des recettes de la gare routière. Il voulait procéder à la vérification pour savoir si ces véhicules-là qui transportent les marchandises, ces marchandises-là ont été bien dédouanés. Et sur les 2 cas qu'il a prélevés, il s'est avéré qu'il y avait des problèmes. Sur le premier véhicule, il était dénombré au niveau de la première ligne 220 colis de mousse. Lui, en reprenant le contrôle, il a dénombré 285, vous voyez, avec une différence de 65. Ça montre déjà que le travail à la première ligne a été très mal fait. Deuxième véhicule, il a pris. Quand le véhicule a été débâché, on a vu que dans le véhicule, il y avait un groupe électrogène de plus de 10 KVA que, au niveau de la première ligne, ils n'ont pas taxé. Vous voyez, c'est ce genre de contrôle qui nous permet de faire des perceptions additives en plus de ce qui a été fait en première ligne. C'est prévu par les textes et nous allons continuer à le faire.
Vous venez là d'écouter Dieudonné Koyangbo, directeur général adjoint de douane chargé des services centraux. Le centre de santé de Pata, situé à 60 km de Bangui, axe d'Amara, confronté à des multiples difficultés.
Manque de personnel qualifié, de médicaments, état du bâtiment délabré, la liste est longue.
C'est le constat fait par Stéphane Andjoyo lors d'un passage vendredi dernier dans ce village.
C'est un bâtiment de 12 mètres sur 5 inauguré en 1998. Selon les statistiques sanitaires, 12 504 habitants sont appelés à se soigner dans ce centre de santé. Le personnel soignant est totalement composé de secouristes. Le centre de santé de Pata dispose des services pour apporter les premiers soins nécessaires à la population. À la pharmacie, les rayons réservés aux produits sont vides. Hippolyte Deletinou, chef de ce centre.
Nous avons la maternité, la médecine, et laboratoire, petit chirurgie, salle d'hospitalisation, le bureau du chef de centre, la pharmacie. Nous n'avons pas de médicaments. Seulement les gens de Cogès qui nous ont prévu quand même quelque chose pour sauvegarder la population, quoi. Nous avons 3 lits au niveau de la médecine et la maternité aussi, nous avons 4 lits. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant.
Certaines maladies dans la gale sont fréquentes dans le village Pata. Hippolyte Deletinou.
Nous avons l'amibe et bilharzie qui nous dérangent. Maintenant, la gangrène dans notre village est ici. Nous sommes dans un milieu rural. Les gens utilisent des lacs par rapport à cela que ces microbes-là s'accroissent beaucoup dans nos villages.
Le chef de centre lance un SOS pour la réfection de ce bâtiment ainsi que sa dotation en médicaments. Stéphane Andiou de retour de Pata, Radio Ndekeluka.
Direction la sous-préfecture de Bossangwa, 2 pistes rurales ont été réhabilitées. La remise a été faite cette semaine devant le ministère des Travaux publics.
Une réalisation de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public en Centrafrique, AGTIP CAF, dans le cadre du projet de connectivité rurale PCR financé par la Banque mondiale.
La cérémonie de réception s'est déroulée dans le village Bomissi à 112 km de Bossangwa Centre. Correspondance de Raphaël Nganaré.
En février, le projet de connectivité rurale a été lancé pour pallier les problèmes de pistes rurales, longtemps coupées des grands centres et villages. Des jeunes recrutés par campement ont travaillé pendant plus de 4 mois pour remettre à niveau les pistes de Benzamé et Gbadé, distantes de 250 km. Joël Aresté de Nambema, chef du projet, demande à la population de Louam de s'approprier l'initiative pour pérenniser l'entretien de ces routes.
Ce que je voulais dire, d'abord, c'est à la population de Louam de s'approprier de ce projet, parce que là, quand on a fait des tours, on a vu que les canaux, les fossés qu'on a réalisés pour faire évacuer l'eau, pour protéger la chaussée, on a vu que certains parents ont pris encore des déchets solides pour ramener. Alors, nous prions à ce qu'eux aussi puissent participer à la pérennité de cette route, de veiller à ce que ces canaux-là ne soient pas bouchés pour que cette route soit durable pour nous tous.
En réceptionnant ces pistes, Fortuné Stéphane Malik, directeur d'entretien routier, s'est réjoui des travaux accomplis. Même si cela est fait à la main, les normes dans le cahier de charges ont été respectées.
Je crois que l'AGTIP a pris soin d'exécuter ces travaux-là selon les normes, selon le cahier de charges qui lui a été confié. Ce qui m'a plu beaucoup, tout au long de chaque ouvrage, l'AGTIP a pris soin de mettre des panneaux de signalisation sur une piste. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et des travaux concernant les ponts, ils ont réalisé selon les normes qui ont été prévues dans le cahier de charges. Ces travaux ont été exécutés en main. C'est des travaux manuels, c'est pas mécanisé.
Par ailleurs, au cours de l'exécution de ce projet, plus d'une trentaine de plaines relatives à l'abattage des arbres fruitiers et la destruction des portions de champs par l'élargissement des pistes ont été enregistrées. Certaines sont réglées à l'amiable, d'autres par contre nécessitent l'indemnisation. Raphaël Nganaré, Bossangwa, Radio Ndekeluka.
Actualité hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, les corps sans vie de 25 bébés ont été découverts dans le cimetière de Ngaïnoa, une ville de Côte d'Ivoire à 230 km au nord-ouest d'Abidjan.
Les corps ont été emballés dans des sachets noirs, a expliqué le troisième adjoint au maire de Ngaïnoa. Le gardien du cimetière a fait la macabre découverte en passant en prenant son service mercredi matin.
Face à cette situation, les autorités ivoiriennes ont ouvert une enquête selon une source locale. Il pourrait s'agir d'un trafic de bébés décédés dont les organes peuvent être revendus à l'étranger ou à des fins de rituels Lapache sport. La page sport de ce journal, c'est avec vous, Providence, aujourd'hui, Orogbondi, bonjour.
Bonjour, Reine Fabienne Dotiga, bonjour à tous.
Les Fauves de Gbazoubongui sont déterminés à se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun.
Ces footballeurs se disent motivés à relever le défi afin de participer pour la première fois à une phase finale de cette compétition officielle africaine de football. Ils sont internés depuis le 14 juillet dans une résidence hôtelière à Bangui. Les coulisses de leur préparation avec Bienvenue Bello qui est allé à leur rencontre.
Il est 10h à la résidence des Fauves. Les joueurs doivent passer des exercices physiques et parfois avec le ballon. Les 4 entraîneurs sont présents et sont assistés du chargé de matériel et du soigneur appelé kiné. Tout le staff technique est au boulot pour l'éveil musculaire et la répétition de certains jeux avec indication. Les joueurs appliquent les consignes. L'objectif de 23 footballeurs, se qualifier pour le Champ 2020. Marc Yapende, dit Marco, un latéral sélectionné pour la première fois, est bien conscient de la tâche qui l'attend.
C'est vraiment une grande fierté pour moi. C'est ma première fois de venir dans l'équipe nationale, donc je suis vraiment fier. Je vais me mettre sérieusement au travail et je vais toujours me battre, continuer à aller vers l'avant. Je pense que les gens attendent de moi, donc je dois me donner meilleur pour ce match.
Junior Gourier, milieu de terrain, est le capitaine de l'équipe nationale.
Depuis le début, le système que le coach a mis en place, tout le monde est vraiment en place et puis il est content que tout le monde soit présent à son système et tout le monde a compris. Je pense que l'essentiel, c'est que nous les joueurs, on a compris là où il veut nous amener, quoi. Nous tous, on a le même objectif, c'est d'aller à la phase finale parce que jamais que notre pays a participé dans des grandes compétitions. Donc notre objectif, c'est d'aller jusqu'à la phase finale si Dieu le veut.
Les Fauves locaux joueront leur premier match officiel face au Sao Tomé et Principe le mardi 30 juillet à partir de 15h au stade Barthélémy Boganda de Bangui. Vous êtes prêts ?
On y va ? Merci à vous. Bienvenue Bello en football. Poursuite des matchs en retard du championnat féminin sur le terrain de l'Université de Bangui.
Les Abeilles de la capitale affrontent Racine à 15h. On rappelle hier, Aspendéré a perdu 0-2 devant FC Lyon. Les Abeilles du 4e, ont écrasé Étoile de Zébé 7-0.
Les éliminatoires de la Coupe Renaissance se poursuivent dans les arrondissements de Bangui.
Oui, Rennes à l'école Koudoukou à partir de 15h, FC Siriri contre RC Dombia en quart de finale au Pekados. Fini Tongolo sera face à Olympique Junior de Bekoa.
Dans le 6e, on joue toujours sur le terrain Maya Maya. Les éliminatoires de la Coupe en faveur de la paix sponsorisée par le président de la Sous-Ligue de cet arrondissement.
Les Anges d'Israël vont affronter Mototaxi à 15h.
Et puis un match de football se déroule cet après-midi sur le terrain de Bimo.
Une rencontre amicale pour la paix et la cohésion sociale dans cette localité située à 35 km à la sortie sud de Bangui. La rencontre mettra aux prises les commerçants de PK5 de Bangui aux jeunes de Bimo. Zakaria Ousmane, président de l'association des jeunes visionnaires centrafricains pour le développement, appelle les populations de la localité à une participation massive à ce match.
Et c'est la fin de ce journal en français. Merci de votre écoute. La version Sango, c'est après la revue de presse internationale avec Jean-Fernand Kouina.
La revue de presse de Radio Ndekeluka.
L'actualité en Centrafrique est l'objet d'analyse des médias à l'international. Jean-Fernand Kouina, vous avez lu quelques-unes de ces informations pour nous faire le point. Mais disons d'abord bonjour.
Bonjour Cyrus Armand Zemangikete et bon week-end à toutes et à tous.
Au chapitre sécurité, le journal Le Monde est pessimiste au sujet de la mise en œuvre de l'accord.
Centrafrique, près de 6 mois après l'accord de paix, rien ne change, titre Le Monde. Et nos confrères de renchérir en écrivant ceci, signé le 6 février au Soudan, l'accord de paix entre 14 groupes armés et le gouvernement centrafricain est au point mort. Menker Ndiaye, l'émissaire de l'ONU pour la RCA, constate chaque semaine de 50 à 110 violations de cet accord pour les groupes signataires. Une catastrophe pour les civils. On tue toujours en Centrafrique près de 6 mois après l'accord de paix de Khartoum et toujours selon le même schéma.
Faisons un lien à ce sujet, BBC s'intéresse au sujet des victimes.
Oui, les inquiétudes des victimes des crises en RCA, c'est le titre de BBC. Mais ce n'est pas tout. BBC nous informe que 6 mois après la signature officielle de l'accord pour la paix en Centrafrique, les victimes des multiples crises survenues dans ce pays s'interrogent toujours du travail que fait le comité de suivi du dit accord négocié à Khartoum au Soudan. Elles sont aujourd'hui des milliers à déplorer l'augmentation sans cesse de leur nombre malgré la signature de l'accord le 6 février 2019, peut-on lire sur le site de BBC.
Lorsqu'on parle des victimes, on pense aussi à la justice, Jean Fernand.
À ce sujet, TV5 Monde nous parle des difficultés financières de la Cour pénale spéciale à travers son titre. La Cour pénale spéciale souffre d'un manque de moyens, citant ainsi le rapport de Human Rights Watch. Selon ce média, le budget annuel est de 12,4 millions d'euros, dépendant des promesses des bailleurs. À la date du 10 juillet, la Cour présentait un déficit de financement d'environ 1 million de dollars pour ses activités de 2019 et aucun apport de fonds n'était prévu pour les activités des années à venir. Les bailleurs de fonds actuels, États-Unis, France, Pays-Bas et Union européenne, devraient augmenter leur soutien financier, recommande Human Rights Watch, a écrit TV5 Monde.
Santé pour chuter, AFP en parle.
L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo inquiète les autorités, peut-on lire en titre sur AFP. Dans cet article, l'AFP situe les difficultés du gouvernement, je cite, « La République centrafricaine n'est pas préparée à affronter une propagation de l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans le pays voisin, la République démocratique du Congo », a déclaré jeudi le ministre de la Santé Pierre Somsé. Une annonce qui intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient de déclarer l'épidémie d'Ebola urgence sanitaire mondiale le 17 juillet.
Jean Fernand, merci.
Merci, Cyrus Armand Zemongi-Kété, pour avoir toutes ces informations. Rendez-vous sur ces sites indiqués et bonne lecture.